Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos parsemées d'extraits sonores, rieurs et de musique guirette destinée à vous donner le sourire des potrons minés. Revers de la médaille, hein, à force de passer mes journées à écouter des musiques, elles finissent par toutes se mélanger dans ma tête, si bien qu'hier j'ai même réussi à confondre les Beatles et Claude François. Mea culpa. Pour la chanson des Beatles, Hello Goodbye, il y a un passage qui dit « You say yes, I say no, you say stop, I say go, go, go. You say yes, I say no. » Vivement les vacances. Heureusement, debout les copains, c'est aussi l'érudition de Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, alors qu'Edouard Philippe sera l'invité exceptionnel de la matinale de Nikos Aliagas, revient sur l'origine de la fonction de Premier ministre.
Merci d'écouter Europe 1 ce vendredi 15 mars. Et très bon réveil à tous. Il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 15 mars. Bonjour Céline Kamann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
L'horreur en Nouvelle-Zélande à Christchurch, 2 mosquées attaquées. Le bilan n'est pas encore dévoilé mais la police parle déjà de dizaines de victimes. 4 personnes ont été arrêtées et des engins explosifs retrouvés. Les côtes de Charente-Maritime et de Gironde en alerte contre une éventuelle marée noire après le naufrage mardi d'un navire italien. Et puis ils n'ont rien pu faire face à Arsenal. Rennes a été éliminé en Europa League 3-0. Jérôme Lacroix reviendra dans son journal des sports.
Europe 1.
La Nouvelle-Zélande est donc sous le choc et le monde entier d'ailleurs après des fusillades contre 2 mosquées de la ville de Christchurch. On ne connaît pas encore le bilan, mais il s'annonce extrêmement lourd, Chanel Petit.
Oui, les médias locaux et la police parlent déjà ce matin de plusieurs dizaines de victimes. Ce que l'on sait alors qu'il est, c'est qu'il y a eu 2 attaques dans 2 mosquées différentes de la ville, situées à 5 km l'une de l'autre. C'était à l'heure de la prière, ce qui explique que ce bilan pourrait être particulièrement lourd. D'après les premiers éléments, il y avait plusieurs assaillants et des engins explosifs artisanaux ont été retrouvés dans les véhicules des suspects. La police annonce l'arrestation de 4 personnes, 3 hommes et 1 femme, à l'issue de scènes d'une extrême violence. L'un des tireurs s'est même filmé avec une caméra GoPro et a diffusé ces images insoutenables en direct sur les réseaux sociaux. Un très large périmètre autour de ces mosquées a été bouclé. Toutes les écoles de la ville et les bâtiments publics ont fermé leurs portes. La police appelle toujours ceux qui se trouvent dans le centre de la ville à ne pas descendre dans la rue.
Merci Chanel Petit, et je vous propose d'écouter la réaction à l'instant de la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern.
Ce jour est l'un des jours les plus noirs de la Nouvelle-Zélande. Clairement, ce qui s'est passé est un acte de violence extraordinaire et sans précédent. Nombre de ceux qui ont été directement touchés par cette fusillade pourraient être des migrants. Ce pourraient même être des réfugiés. Mes pensées, et je suis sûre celles de tous les Néo-Zélandais, vont à ceux qui ont été touchés et à leurs familles.
La première ministre de Nouvelle-Zélande, donc, après ces fusillades sans précédent dans le pays, pas de bilan, je vous le rappelle pour l'instant, mais la police fait état de morts multiples. 2 nappes d'hydrocarbures dérivent plein est depuis l'épave du bateau italien qui a sombré mardi au large de La Rochelle. 5 navires vont être déployés pour tenter d'en récupérer le maximum avant qu'elles ne touchent les côtes. Les ostréiculteurs ont été invités à prendre des précautions. La première mesure étant de mettre un maximum de produits en circuit fermé.
Fin du grand débat aujourd'hui, 2 mois de consultation dans toute la France et demain, une nouvelle mobilisation de gilets jaunes.
Et oui, et le Monde Forain annonce lui aussi une journée de manifestation avec les gilets jaunes, les forains qui entendent protester contre une ordonnance européenne. Pour organiser une fête foraine, les municipalités doivent passer par un appel d'offres. La circulation risque d'être perturbée dans de nombreuses villes. Jeanne Bergaoui.
Opération Escargot sur le périphérique parisien, mais aussi en région, à Lyon, Lille, Toulouse ou encore Perpignan. Les forains promettent des rassemblements un peu partout en France pour protester contre cette ordonnance qui, selon eux, fragilise leur profession. Cette ouverture à la concurrence européenne, c'est le risque de perdre les emplacements traditionnels et donc des sources de revenus importantes, explique Gene Coignou, président du syndicat professionnel de Forains Sud-Europe. Lui sera mobilisé à Brive.
On arrive à un problème qui va être vraiment critique pour la profession. C'est l'économie qui est mise en danger. C'est les gilets jaunes qui viennent tuer les ménages. Et nous, on est comme les gilets jaunes, exactement pareil. C'est pour cette raison-là qu'ils nous soutiennent et que nous, on les a soutenus.
Lors d'une tournée, les forains changent de ville 20 à 30 fois par an. Il faudrait alors remplir de nouveaux dossiers pour répondre à chacun des appels d'offres. Ils dénoncent donc des complications administratives et demandent au gouvernement la fin de cette ordonnance européenne.
Jeanne Bergaoui, matinale spéciale avec le Premier ministre Édouard Philippe, invité ce matin sur Europe 1 à partir de 7h30 jusqu'à 9h dans la matinale de Nikos Aliagas. Les syndicats de douaniers ont rejeté hier soir une nouvelle proposition de Bercy pour tenter de mettre fin à la grève du zèle des agents. Ces derniers réclament des moyens supplémentaires à l'approche du Brexit. Et hier soir, les députés du Royaume-Uni ont voté pour un report du Brexit d'au moins 3 mois, date butoir fixée à fin juin pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un nouveau vote sur l'accord devrait intervenir au plus tard mercredi prochain.
Nathalie Loiseau prête à être tête de liste de la majorité présidentielle aux européennes en mai prochain.
La ministre des Affaires européennes était hier soir confrontée à Marine Le Pen dans l'émission politique sur France 2.
Madame Le Pen, je voudrais vous dire bravo. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je n'ai pas envie que l'Europe de demain ressemble à celle que vous allez dessiner avec des nationalistes ultralibéraux qui sont vos amis. Moi, j'ai envie d'une Europe du partage et pas d'une Europe de la division.
Vous avez changé
d'avis.
Ce
soir, c'est vrai, je suis prête à être candidate. Je ne sais pas ce qu'en pensera la majorité présidentielle, parce qu'il y a des chefs de parti, je ne leur en ai pas parlé. Mais cette fois-ci,
mignon.
Je ne me défilerai pas, Madame Le Pen.
Nathalie Loiseau, hier soir sur France 2, Boeing annonce la suspension des livraisons de ses 737 MAX. Les appareils sont interdits provisoirement de vol partout. L'analyse des boîtes noires d'Ethiopian Airlines va débuter aujourd'hui en France pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Et puis je vous rappelle donc l'information de cette nuit, ce massacre en Nouvelle-Zélande dont on ignore encore le bilan exact, mais dont on sait qu'il sera très élevé, des fusillades perpétrées dans 2 mosquées de Christchurch. 4 personnes ont été arrêtées et des engins explosifs ont été retrouvés.
Merci, c'était le journal de Céline Kalman.
Europe 1.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et alors qu'Edouard Philippe sera, je le disais, l'invité exceptionnel d'Europe 1 tout à l'heure dans la matinale de Nikos Aliagas, Fabrice Dalméda revient aux origines de la fonction de Premier ministre.
Bon réveil à tous, il est 6h06. Il est 6h07, Mathieu Noël.
On fait un point avec vous sur la météo, Céline. Un ciel encore couvert aujourd'hui et de la pluie.
Oui, oui, de faibles averses un petit peu partout. Un vent encore bien sensible, surtout sur la moitié nord, de la neige sur les Savoies qui sont placées en vigilance orange avalanche, comme l'Isère d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un vent soutenu sur ces sommets. Temps plus calme avec du soleil sur l'extrême sud, avec là aussi un vent fort jusqu'à 100 km/h sur les Caps Corses. Des éclaircies qui vont revenir sur une grande partie ouest cet après-midi. Les températures, elles sont douces déjà ce matin et la moyenne cet après-midi ira de 13 à 20 degrés du nord au sud. Avec le vent, évidemment, le ressenti sera un petit peu plus faible.
Merci Céline Evaroc.
C'est la journée mondiale du droit des consommateurs depuis ce matin, 5h. On vous demande si vous avez été victime d'une arnaque, mais aussi si vous avez eu un petit coup de cœur shopping ces derniers temps. Eh bien, Romarix nous dit « J'ai beaucoup de coups de cœur. La tentation est partout. Mais avant de craquer, avec le produit en main, prêt à passer à la caisse, je m'arrête un moment et je me dis « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Eh bien, en général, je repose le produit. Exactement. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je ne sais pas ce qui se passe, mais entre Jérôme Lacroix et Fabrice Almeida, il se passe des choses étonnantes qui n'est pas ma compréhension.
J'ai vu qu'il y avait une agression.
J'ai eu un petit peu peur. C'est un moment qui pourrait être beau, mais qui est toujours sali par l'esprit mal tourné d'Eva Roque et Céline Dacosta. A priori, pourtant, le journal des sports se prête peu à la gaudriole potache. Pourtant, il suffit à Eva et Céline qu'un nom de footballeur leur rappelle leurs vacances au Cap d'Agde et patatras.
Lucas Touzard est l'unique buteur lyonnais.
Le mec s'appelle comment ?
Oh,
merde. Allez, mon pauvre Jérôme Lacroix.
J'ai rien dit.
Passons au journal des sports.
Aucun commentaire.
Ouais, franchement.
À la une, les footballeurs rennais n'ont pas tenu le choc.
En une semaine, ils sont passés de la lumière à Londres, victorieux d'Arsenal la semaine dernière.
Merci.
Eh oui, ils avaient battu Arsenal jeudi dernier 3-1 au match aller. Eh ben hier soir, ils ont perdu 3-0 au retour. Et voilà, les Bretons éliminés de la Ligue Europa en 8e de finale. Rageant, ont-ils dit au sortir du vestiaire. Et le jeune entraîneur, Julien Stéphan, de reconnaître bonne figure la supériorité de l'adversaire.
On a été pris dans les duels, on a été pris dans la vitesse de jeu, on a été pris dans l'intensité, on a été pris dans trop de domaines sur la première mi-temps. Voilà, c'était le niveau de Ligue des Champions en face. Ils ont été plus forts, bravo à eux. Nous, ça va nous permettre d'apprendre énormément, d'emmagasiner de l'expérience, de nous enrichir contre du haut de gamme.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Ce parcours européen n'en reste pas moins historique pour le club.
Jamais Rennes n'était allé aussi loin dans une Coupe d'Europe et le public a suivi. Ils étaient plus de 5000 supporters hier soir à Londres. Sentiment partagé.
Vraiment, vraiment déçu.
Ils ont fait un non-match. Ils n'ont pas été dans le coup du début à la fin. Quoi.
Je crois qu'on a été un peu timorés, paralysés par l'enjeu.
Sans doute trop de pression.
C'est une déception. Après, ce qui nous met un peu de baume au cœur, c'est ce qu'on a pu mettre dans les tribunes.
Beaucoup de fierté, franchement. On n'espérait jamais venir jusque-là. Et quoi qu'il arrive, c'est un très beau parcours. On retiendra que ça.
Des supporters rennais au micro Europe 1 de Théo Manneval. Ce matin, Frexit, plus aucun club français sur la scène européenne du foot masculin. C'est la première fois depuis 8 ans qu'aucun représentant de la Ligue 1 ne se hisse en quart de finale d'une des deux Coupes d'Europe. Par ailleurs, Benfica, Naples ou encore Chelsea sont qualifiés grâce notamment à un triplé d'Olivier Giroud pour Chelsea.
La situation s'envenime encore entre le PSG et Adrien Rabiot.
Le jeune joueur mis à pied à titre conservatoire jusqu'au 27 mars, information révélée par l'équipe. Le club lui reproche notamment une sortie en boîte de nuit le soir de l'élimination en Ligue des Champions, un match pour lequel il n'était pas convoqué hein, puisqu'il est exclu de l'équipe depuis plusieurs semaines. Une procédure pour faute grave est ouverte. Rabiot doit rencontrer les dirigeants à l'issue de sa mise à pied. Le PSG qui se prépare à recevoir l'OM dimanche soir, affiche de la 29e journée de Ligue 1. Une journée qui démarre dès ce soir, Nice-Toulouse et Lille-Monaco.
Et demain, rugby.
Italie-France, dernier match du tournoi des 6 nations pour éviter l'humiliation d'une quatrième défaite en 5 rencontres pour un 15 de France toujours aussi fébrile. Le sélectionneur Jacques Brunel a potassé ses fiches, lui, l'ancien entraîneur de l'Italie.
Capables de bien jouer. On a vu contre l'Irlande hein, qui sont capables de rivaliser avec ces équipes-là. On les connaît très très bien et moi particulièrement. Donc je sais que ce ne sera pas une partie de plaisir.
Le tennis et Gaël Monfils déclare forfait avant de disputer son quart de finale au tournoi d'Indian Wells aux États-Unis.
Oh ben non.
Ce devait être face à l'Autrichien Tim. Bah oui, il est blessé, il souffre à un tendon d'Achille. Et puis les volleyeurs de Chaumont ont frôlé l'exploit hier soir à deux doigts de faire tomber Pérouse, l'une des meilleures équipes du monde. Défaite finalement 3-7-2 dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Retour mercredi prochain en Italie.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
68 000 spectateurs pour un match de foot féminin de club. Ce serait le record mondial et il va peut-être être établi dimanche pour la rencontre au sommet Atlético Madrid-Barcelone en championnat d'Espagne. Toutes les places du stade madrilène ont été vendues.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, je me tourne vers cet homme qui fascine. Ce showman dont même le bonjour est un spectacle.
Bonjour à tous.
Inoubliable interprète de Magnolia Forever, il n'en oublie pas son vrai métier, historien. Là, il fait le modeste, il fait comme s'il n'entendait pas mes compliments, il fait comme s'il ne sentait pas que Céline Dacosta lui fait du pied sous la table, il feint l'indifférence.
Bon, Jean, tu l'as pas senti, coquin.
Et voici Fabrice d'Almeida.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
Fabrice, ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe est l'invité de la matinale d'Europe 1. Mais dites-moi, le Premier ministre, c'est un poste qui date de longtemps, qui existe depuis longtemps ?
Alors, le Premier ministre est une fonction créée par le général de Gaulle pour la 5e République. Le premier Premier ministre, d'ailleurs, était Michel Debré, qui avait contribué à la préparation de la Constitution. Avant, sous la 4e République, on parlait de président du Conseil, car il présidait le Conseil des ministres et cela le distinguait du président de la République qui avait de très faibles pouvoirs. Le socialiste Paul Ramadier inaugura la fonction. Mais de fait, l'expression était déjà utilisée sous la 3e République et même institutionnalisée après la Grande Guerre.
Et avant 1914 alors ?
Ben, c'était simplement le chef du gouvernement. Souvent, il cumulait cette fonction avec un ministère. Ferry, par exemple, avait l'instruction publique en même temps que son poste de chef du gouvernement. Et Clémenceau avait l'intérieur. Comme d'ailleurs quand Édouard Philippe a assuré l'intérim avec le ministère de l'Intérieur tout en restant Premier ministre. Pour être précis, sous la Restauration en 1815, le chef du gouvernement était parfois appelé président du Conseil des ministres et sous l'Ancien Régime, la fonction était déjà là.
Mais vous voulez dire que les rois avaient aussi un Premier ministre ?
Oui, on les appelait alors le principal ministre. Le premier avec ce titre officiel est Sully sous Henri IV. Vous savez, le roi à la poule au pot et Sully a été le grand sauveur des finances royales. Bien sûr, avant lui, la position existait mais pas le titre. Ses successeurs comme Concini, Richelieu et Mazarin tiendront à ce titre en espérant qu'il les protège des colères populaires et des disgrâces royales. Mais Concini fut assassiné sur ordre du roi Louis XIII. Richelieu dut se prosterner à genoux devant lui pour sauver sa tête en 1630. Et Mazarin, on s'en souvient, échappa de peu à la fronde. Alors peut-être l'art de la boxe dont Édouard Philippe est initié l'aidera-t-il à surmonter les pièges de l'histoire tout en esquive parade et attaque, bien sûr.
Merci beaucoup Fabrice Dalmeida, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi, peu avant 6h15. Et on rappelle donc que le principal ministre, Édouard Philippe, sera l'invité d'Europe 1 ce matin.
Magnifique.
Entre 7h30 et 9h.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures de bonne humeur et de questions d'actualité. Comment venir à bout du chômage? Céline, je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur.
Ah, ça m'énerve.
Certains, heureusement, ont des idées plus constructives. Un dispositif expérimental a été lancé dans 10 communes françaises, ça s'appelle Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. L'émission d'M6 Zone Interdite lui consacre un numéro dimanche soir, car visiblement ça marche. Laurent Grand-Guillaume, ancien député et président de l'association Territoire Zéro Chômeur, sera notre invité à 6h20 pour nous expliquer ce dispositif et ce qu'il peut changer pour vous.
Très bon réveil à tous sur Europe 1, il est 6h16. Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Massacre en Nouvelle-Zélande, on ignore encore le bilan exact, mais on sait qu'il va être élevé. Des fusillades ont été perpétrées dans 2 mosquées de Christchurch. 4 personnes ont été arrêtées, des engins explosifs ont été trouvés. 2 nappes d'hydrocarbures se sont déjà échappées du Grande America, le bateau italien qui a coulé dans l'Atlantique. 5 navires vont être déployés pour tenter d'en récupérer le maximum avant qu'elle ne touche terre. Enfin, du football, Rennes a été facilement battu hier soir par Arsenal, 3-0 en Ligue Europa. Ce soir, début de la 29e journée de Ligue 1, Lille reçoit Monaco à 20h45.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce vendredi 15 mars. Et l'actualité, c'est aussi la diffusion ce dimanche sur M6 de Zone Interdite, avec un reportage consacré à une entreprise vraiment pas comme les autres. Elle a permis d'embaucher en CDI plus de 60 chômeurs de longue durée en leur créant un emploi sur mesure. Bonjour Laurent Grand-Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes ancien député, président de l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. L'entreprise, filmée par l'équipe d'M6, basée à Mauléon dans les Deux-Sèvres, fait partie d'un dispositif expérimental lancé dans 10 territoires français. Dispositif que vous avez contribué à mettre en place lorsque vous étiez député, vous avez porté cette loi. Aujourd'hui, c'est donc l'heure d'un premier bilan. Déjà, en quoi consiste concrètement ce dispositif?
Eh bien, c'est assez simple. On prend le coût du chômage longue durée. C'est 43 milliards d'euros par an pour l'État et les collectivités territoriales. Ça veut dire 18 000 euros par an et par personne. Donc, c'est le coût du chômage longue durée. Voilà. Eh bien, on prend ce coût et finalement, on le mobilise pour financer des emplois nouveaux dans ces territoires. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un emploi supplémentaire dans le territoire, au sens où on crée une activité nouvelle, qui est financée en partie par cette activation.
D'accord, on prend le problème en amont, on crée l'emploi avant même qu'il y ait la demande.
Voilà, et on prend le coût du chômage pour financer en partie cet emploi. Donc c'est assez simple, finalement, l'idée est simple. Voilà. Après, il faut pouvoir la mettre en œuvre.
Excusez-moi, mais elle paraît presque trop simple. On se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant, du coup.
Eh bien, c'est ce que je me suis dit, d'ailleurs, quand j'ai défendu et porté cette loi, après avoir rencontré les associations comme ATD Carmonde. Et je me suis dit la même chose, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors, sans doute parce que, comme c'est une expérimentation, on part des territoires, et ce sont les territoires qui font, ça ne vient pas du haut.
Voilà. Ah, et donc en France, avec notre tradition centralisation,
c'est pas tout à fait dans
la même
logique.
C'est une idée nouvelle. Voilà. Combien de postes et quel type de métiers ont par exemple été créés dans ces 10 territoires? Alors,
à ce jour, il y a près de 800 emplois qui ont été créés dans les 10 territoires concernés, qui sont des territoires de 5 à 10 000 habitants.
En moins de deux ans.
Et donc, on est sur des activités économie circulaire, transition énergétique et transition écologique, économie de proximité. Parfois, on recrée de l'artisanat, on rachète un commerce qui va disparaître, on recrée des services à la personne qui ont reculé. Donc, on est vraiment dans l'économie de proximité, la transition énergétique et écologique. Et d'ailleurs, sur la transition énergétique, écologique et l'économie circulaire, on est sur des activités qui ont une forte intensité en travail humain. Donc ça, c'est très important.
Et c'est des métiers plutôt qualifiés ou
On a les deux, on a des peu qualifiés, d'autres qualifiés. On a aussi, d'ailleurs, dans les entreprises, on a des anciens cadres, des anciens ouvriers, employés, toutes les catégories sont représentées dans l'entreprise.
Alors, dans le reportage de Zone Interdite, on croise Pierrick, Pauline, Mohamed, d'anciens chômeurs qui, comme 67 autres habitants de la commune de Mauléon, ont retrouvé un emploi. Qu'est-ce qui va se passer pour eux à la fin de l'expérimentation? L'expérimentation dure 5 ans, normalement.
Alors, on pose souvent cette question. À la fin, d'abord, les entreprises, elles montent en chiffre d'affaires. Chaque année. Donc on développe un chiffre d'affaires et à la fin, peut-être il y aura encore une queue de financement de l'État pour réussir à équilibrer le système. Mais on va prouver de toute façon à la fin que finalement l'emploi coûte moins cher que le chômage en général pour la société, et ça c'est très important. Et par ailleurs, on ne me pose jamais la question: qu'est-ce que les personnes seraient devenues pendant les 5 ans? Parce qu'en fait, si on n'avait rien fait, ces personnes n'auraient pas retrouvé d'emploi. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, les 800 personnes dont je parle, elles étaient en moyenne au chômage depuis 52 mois.
Effectivement. Et donc pour vous, à l'heure du bilan, c'est déjà un succès cette expérimentation.
C'est déjà un succès.
Parce que des territoires se manifestent pour participer à la prochaine expérimentation.
Alors, beaucoup de territoires nous contactent. C'est-à-dire que là, on est maintenant à ce jour à près de 200 territoires qui nous ont contactés. Ça va de l'ensemble du territoire de la Corse, de la Martinique, de la métropole de Lyon, de la métropole de Lille, avec à l'intérieur des territoires qui veulent se mobiliser. Ce n'est pas l'ensemble de la métropole de Lyon qui veut se mobiliser, mais quelques territoires dans la métropole de Lyon. Et donc nous, on les accompagne avec l'association pour se préparer. Et on se bat pour obtenir une deuxième loi qui permette d'étendre cette expérimentation.
Parce qu'on pourrait, si ça fonctionne si bien, on n'a qu'à l'étendre à tout le territoire, puis on n'en parle plus.
D'autant plus que, avec l'urgence sociale en ce moment, tous les débats qui existent sur la question sociale, bien nous, on est une solution à la fois territoriale et une solution citoyenne et démocratique.
Voilà. Sur Europe 1, tout à l'heure, on reçoit Édouard Philippe, le Premier ministre. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer sur ce dossier, par exemple, une demande?
Je voudrais lui dire que cette expérimentation, d'abord, elle fonctionne, qu'on a besoin justement de la confiance de l'État pour grandir. Il y a aujourd'hui des territoires qui sont mobilisés, des personnes privées d'emploi qui sont mobilisées. Maintenant, on attend une deuxième loi dès 2019 et là, seul le gouvernement peut le faire. Et donc, on souhaite qu'il puisse se mobiliser pour cette deuxième loi dès 2019 et nous permettre d'étendre à de nouveaux territoires pour finalement réaliser l'utopie qu'on défend.
Il paraît que votre initiative fait boule de neige, même à l'étranger, ça commence à intéresser à l'étranger. Des sociologues d'Harvard l'étudient notamment.
Il y a des sociologues effectivement d'Harvard qui nous accompagnent. Il y a aussi des acteurs en Belgique qui voudraient expérimenter. Je dois voir la semaine prochaine l'ambassadeur d'Allemagne en France. Mm-hmm. Voilà, donc on a vocation aussi à s'internationaliser, parce qu'on est ambitieux et on se dit que de toute façon, il faut foncer et défendre ce projet partout. Où c'est possible.
Ouais. Alors, Laurent Grégoire, vous avez été, on l'a dit, député, membre du Bureau national du Parti socialiste, mais il y a deux ans, vous avez décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Vous avez même publié un livre intitulé « La gauche a perdu sa boussole, offrons-lui un GPS ». Alors, le titre m'a amusé. Et aujourd'hui, vous avez perdu foi dans le Parti socialiste, Laurent Grégoire ?
J'ai perdu foi dans le Parti socialiste, c'est-à-dire dans le parti en tant qu'organisation. Mais les idées, vous savez, ce sont des idées qui font leur chemin. Et moi, j'ai dit en 2016, effectivement, que la gauche avait perdu sa boussole et qu'il était temps de lui offrir un GPS à travers ce livre. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour les idées. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a vu le résultat. Mais ça n'empêche pas, vous savez, de garder ses convictions, voilà, les valeurs, de porter des combats. Mais moi, je crois que la politique, aujourd'hui, c'est la vie de la cité. C'est-à-dire, en fait, c'est apporter la preuve de ce que l'on défend. C'est le faire, en fait. C'est pas uniquement les concepts. Vous voyez, le monde des concepts, c'est sympa. On peut se faire plaisir. Mais l'important, c'est de faire les choses. Voilà.
On comprend ce besoin de concret de votre part. Mmh. Mais après cette initiative réussie, est-ce que vous pourriez revenir en politique? Fort, justement, du succès de l'opération.
D'abord, je fais de la politique tous les jours au sens de la vie de la cité.
Évidemment, voilà. Mais je veux dire à la politique à l'échelle nationale, disons.
Et après, est-ce que je pourrais un jour revenir dans la politique au sens des mandats? Peut-être, j'ai 41 ans. De toute façon, j'ai le temps. Voilà, je suis jeune. mais aujourd'hui, je suis plutôt engagé dans le bénévolat. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Grégoire, président de l'association Territoire Zéro Chômeur. Ce reportage sur l'expérimentation de Mauléon, signé Marie-Monique Romain, sera diffusé dans Zone Interdite sur M6 dimanche à 21h. Merci d'avoir été avec nous.
Europe 1, et les 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de l'insolemment talentueux David Doucan. La météo avec un ciel bien gris aujourd'hui.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Avant de retrouver le journal de 6h30, voici la météo de Céline Dacosta. Mais ne vous trompez pas Céline, hier Nikos a confondu.
Alors du studio, je peux vous dire rapidement, je vois un rayon de soleil. C'est David Doucan, pardonnez-moi.
Ne vous laissez c'est pas mignon. Aveugler par l'aura mirifique de David Doucan qui présente le journal de 6h30 dans un instant. Donnez-nous la météo, s'il vous plaît, avec du gris et de la pluie.
Pas de soleil. Non, un ciel bien couvert avec des averses localement et puis du vent, surtout sur la moitié nord, de bonnes rafales, entre 50 et 70 km à l'heure dans les terres, jusqu'à 90 près des côtes, 100 km à l'heure même sur les sommets, associés à de bonnes chutes de neige comme sur les Savoies et l'Isère. Eh bien, ça donne de force un risque d'avalanche élevé. Donc la vigilance orange est maintenue. Là où le ciel est plus calme, avec de larges éclaircies entre les Pyrénées, les côtes méditerranéennes et la Corse, éclaircies qui vont gagner timidement une partie ouest du pays cet après-midi. Le ciel lui restera couvert et faiblement pluvieux pour les autres.
Les températures, elles, sont en hausse.
Oui, les plus fraîches aussi, puisque la moyenne ce matin va de 6 à 13 degrés, 6 à Antibes, 11 à Paris, jusqu'à 13 à Perpignan. Et puis cet après-midi, elle remonte aussi, 13 à Cherbourg, il en fera 15 à Paris, 16 à Clermont-Ferrand, 18 à Bastia, 20 degrés à Montpellier. Mais vous l'avez compris, avec le vent, le ressenti sera toujours un petit peu plus frais. Demain, très belle journée. Dimanche, retour de la pluie.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, tout savoir de l'info sans jamais oublier d'en rire. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques décortiquent l'actu pour nous. Ce matin, alors que le Premier ministre sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 entre 7h30 et 9h, Mickaël Darmon nous dit qui est vraiment Édouard Philippe.
Bienvenue à tous sur Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté donc par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
L'horreur, l'extrême violence en Nouvelle-Zélande, une attaque à l'arme automatique dans plusieurs mosquées, la population musulmane visée, les images filmées par le ou les tueurs publiées sur le web. Pas de bilan définitif, mais c'est un massacre. Toutes les informations dès le début de ce journal. En France, la fin de la première étape du grand débat national. Le Premier ministre est notre invité à partir de 7h30. On a souvent dit que les jeunes s'étaient peu impliqués. On verra qu'au contraire, certains ont joué le jeu à fond. Reportage à suivre. Et au Royaume-Uni, l'histoire sans fin du Brexit. Les députés britanniques veulent un report, mais pas de nouveau référendum. Les entreprises n'en peuvent plus de ce climat d'incertitude. Reportage de notre envoyé spécial dans un instant.
Europe 1.
On est saisi d'effroi à la vue de ces images jetées en pâture sur Internet. Le ou les tueurs ont eux-mêmes filmé leurs crimes. Deux mosquées de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande ont été la cible d'attaques à l'arme automatique. C'est la communauté musulmane qui est visée. L'attentat est intervenu pendant la prière du vendredi. Les mosquées étaient bondées. Les autorités ne donnent pas pour l'instant de bilan, mais la police affirme que de multiples personnes ont été tuées. Quatre individus ont été interpellés. Chanel Petit, bonjour.
Bonjour.
Que savons-nous, Chanel, exactement en ce moment de ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Zélande?
Eh bien, ce matin, la police est toujours à la recherche d'un ou plusieurs assaillants. Un large périmètre du centre-ville de Christchurch est toujours bouclé à l'heure où l'on parle. Les écoles et les bâtiments publics ont fermé leurs portes après ces deux attaques d'une violence extrême. Cela s'est passé il y a 5 heures, début d'après-midi en Nouvelle-Zélande, heure de la prière. Les deux mosquées situées à 5 km l'une de l'autre sont donc remplies de fidèles, d'où la crainte d'un bilan très très lourd. Les médias locaux parlent déjà de plusieurs dizaines de victimes. Le chef de la police s'est exprimé il y a quelques instants. Il annonce l'arrestation de 4 personnes, 3 hommes et une femme en ce jour de prière pour les musulmans. Il appelle également les fidèles à éviter les mosquées partout en Nouvelle-Zélande et à ne pas se rendre dans le centre-ville. La police dit également avoir retrouvé des engins explosifs artisanaux sur les véhicules des suspects. C'est donc un pays sous le choc, en deuil ce matin. La première ministre Jacinda Ardern parle d'une des journées les plus sombres du pays, d'un acte d'une extrême violence et sans précédent. La Nouvelle-Zélande est réputée pour sa faible criminalité. Là-bas, les attaques à l'arme à feu sont extrêmement rares.
Merci Chanel Petit pour ces informations. Nous vous tiendrons, vous nous tiendrez informés tout au long de cette matinale. La situation en Nouvelle-Zélande n'est donc pas encore totalement maîtrisée. La première phase du grand débat national se termine aujourd'hui, celle pendant laquelle vous avez publié vos contributions sur le site internet et peut-être participé à des réunions près de chez vous. On a souvent entendu que les jeunes ne s'étaient pas saisis de cette opportunité de dialogue. C'est loin d'être vrai partout. Certains s'y sont impliqués avec une grande motivation, parfois au sein d'établissements scolaires qui ont joué le jeu. Exemple au lycée Chateaubriand de Rennes avec François Coulon.
Ils sont 80 jeunes en classe de première et terminale, tous volontaires pour creuser 3 des 4 thématiques du grand débat. Une première séance en atelier avant la présentation de propositions originales, hardies, voire iconoclastes.
Taxer l'héritage à 100%, c'est-à-dire que tout l'héritage des parents revienne à l'État.
Peut-être que faire un pourcentage de TVA en fonction du revenu, comme il peut y avoir pour les impôts.
Ça serait peut-être intelligent de faire un impôt sur les sociétés progressif. Certaines petites entreprises sont beaucoup pénalisées.
C'est assez essentiel en fait de voter dès 16 ans.
Souvent on n'est pas représenté.
Est-ce que pour les personnes âgées, il y aurait aussi un âge de vote maximal? Parce que finalement les personnes âgées vont voter pour des choses qui ne les concernera pas.
Rémi ne regrette pas l'expérience.
Ça m'a permis de plus construire une pensée collective. C'était vraiment intéressant de parler avec des gens qui soutenaient Mélenchon, d'autres qui étaient plus libéraux. Je trouvais ça vraiment intéressant.
Mathéo espère bien ne pas avoir cogité pour rien.
J'aimerais bien que là-haut, ils commencent à prendre compte nos avis, qu'ils mettent en place des solutions concrètes et qu'ils prennent en compte justement les solutions proposées.
Dernière étape aujourd'hui avec la rédaction de dizaines de contributions qui figureront sur le site du Grand Débat National. Rennes, François Coulon, Europe.
Édouard Philippe, qui sera, je le rappelle, l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 à partir de 7h30.
La ministre des Affaires européennes s'est dit prête à conduire la liste de La République En Marche pour les prochaines européennes. Nathalie Loiseau a ajouté que les chefs de la majorité n'étaient pas au courant de sa volonté d'être candidate. On demandera sans doute tout à l'heure au Premier ministre si c'est vrai, s'il n'était pas au courant. Déclaration faite hier soir dans l'émission politique sur France 2, alors qu'elle débattait avec Marine Le Pen. C'est une soirée en boîte de nuit qui fait désordre le samedi 9 mars, après la 17e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Christophe Castaner participait à une soirée arrosée dans une discothèque branchée de la capitale. De nombreuses photos sont captées et publiées aujourd'hui dans les hebdomadaires People Closer. Et voici, selon les informations de Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur a été convoqué hier soir à Matignon.
À suivre dans ce journal, l'histoire sans fin du Brexit. Les entreprises britanniques n'en peuvent plus de vivre dans l'incertitude. A tout de suite.
Il est 6h34.
Europe 1.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, Brexit, énième épisode hier et un milieu économique à bout de nerfs.
Oui, les députés britanniques ont demandé un report du divorce. Ce n'est qu'à l'unanimité que les 27 pays de l'Union européenne pourront l'accorder. Bruxelles a déjà fait savoir qu'il faudrait que la demande de Londres soit solidement motivée. La Chambre des communes a aussi voté contre la perspective d'un nouveau référendum. Tout cela pousse à bout les milieux économiques. Les entreprises britanniques ne supportent plus ce climat d'incertitude. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Théo Manval.
Pas de Brexit le 29 mars, ça n'éclaircit pas les choses pour Rosa.
They still come through Holland.
Toute ma marchandise vient des Pays-Bas, explique cette fleuriste, qui attend donc toujours désespérément de savoir quel type d'accord sera approuvé et quand.
Qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de douane ? Avec quel délai ? Mes fournisseurs sont très inquiets. On n'a aucune orientation. C'est ridicule, ça fait 22 ans que je suis là et franchement, je ne sais pas combien de temps je vais tenir.
Si les députés votent finalement l'accord de Theresa May la semaine prochaine, le Royaume-Uni resterait dans l'union douanière avec l'Europe, mais s'il le rejette, ce sera encore le flou pendant des mois. J'ai déjà perdu 30% de chiffre d'affaires depuis le référendum il y a 2 ans, explique Denise, qui importe elle des vêtements du monde entier. Hier, Donald Trump a lancé l'idée d'un accord commercial Royaume-Uni-États-Unis.
Ça nous aiderait parce que les taxes à l'import pour nous sont très élevées avec les États-Unis et elles n'ont fait qu'augmenter. Après, ça n'équilibrera pas les pertes avec l'Europe, mais on trouvera bien un moyen.
Des pistes alors que le brouillard persiste, au moins jusqu'au prochain vote des députés, mardi ou mercredi. À Londres, Théo Manval, Europe 1.
Et cette information qui nous arrive à l'instant du Proche-Orient, Israël annonce avoir frappé et atteint une centaine de cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Et maintenant, cette information Europe 1, la France ne demandera pas la levée de l'immunité diplomatique du nonce Luigi Ventura. Je vous rappelle que le représentant du Vatican à Paris est visé par une enquête judiciaire pour agression sexuelle. Les informations de Virginie Riva.
Il y a bien sûr la plainte des victimes, leur douleur, mais la France ne peut se brouiller avec le Vatican en demandant la levée de l'immunité du nonce. C'est ce que nous explique une source diplomatique française. Ça serait une mesure extrêmement lourde, presque un affront, explique-t-on. La France renvoie donc le Vatican à ses propres responsabilités, au pape de décider. De son côté, le Vatican dit attendre une demande expresse de Paris pour que l'immunité soit potentiellement levée. En résumé, c'est un dossier très épineux pour le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, dont l'entourage dit qu'il suit le dossier de très près et qu'il est heurté dans ses convictions. Un dossier qui tombe mal tant Emmanuel Macron a eu à cœur de retisser les liens avec le Saint-Siège, très distendu sous le quinquennat Hollande, avec notamment le couac diplomatique autour de la nomination de l'ambassadeur français au Saint-Siège ouvertement gay. En attendant, le parquet ne peut mener à bien son enquête puisque le nonce ne peut être entendu, même en audition libre. Le nonce qui continue de travailler mais qui, selon ses proches, ne sort plus de son ambassade.
Information de Virginie Riva pour Europe 1. Le football, alors, il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe.
Patatras.
Arsenal a stoppé net hier les espoirs de Rennes pour une qualification en quart de finale de la Ligue Europa. Les Bretons ont été battus 3-0 lors de ce 8e de finale retour.
Merci, c'était le journal de David Doucan, journaliste extrêmement précis, parfois même un peu trop. Hein. S'il y a un sujet sur lequel vous êtes bien informé ici, c'est le Brexit, la passion de David, qui hier matin a réussi ce tour de force de vous expliquer le Brexit avec concision.
Essayons de résumer la position des députés britanniques. Ils veulent une sortie négociée de l'Union européenne, mais pas celle-là. Un report court jusqu'au 30 juin, date où le nouveau Parlement européen se réunira. Il faut organiser des élections européennes. Ce n'était pas prévu.
Ils avaient rejeté le texte.
Parlement européen.
c'était interminable. Ah, c'était interminable.
Non, pensez-vous, c'était... Non, ça s'écoutait bien, ça s'écoutait bien. Céline, eh bien, on a tout compris, heureusement.
Non, mais vous êtes d'une mauvaise foi. Oui.
C'est vrai.
C'était très clair.
C'était très clair, mais c'était très long.
Vous m'aviez dit que vous aviez adoré. Donc,
c'est vrai, je vous avais dit ça. Mais parfois, je mens. Céline Dacosta, enfin, un point sur la météo. Encore une journée maussade.
Oui, c'est vrai, hein, surtout partout, avec de faibles averses, un ciel bien couvert, du vent encore, et là, surtout sur la moitié nord, on aura également de bonnes rafales près de la Méditerranée, mais c'est pour dégager les nuages cette fois-ci, puisque le soleil va briller, soleil aussi sur le sud-ouest, éclaircies qui vont gagner du terrain et qui cet après-midi concerneront toute une partie ouest du pays. Du vent, on en retrouve aussi sur les cimes savoyardes associées aux bonnes chutes de neige, cela nous donne un risque d'avalanche élevé. Prudence donc si vous êtes dans ce secteur. La vigilance orange est également maintenue pour ce risque d'avalanche sur l'Isère.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques décryptent l'actu et en débattent. Aujourd'hui, deux questions notamment. Qui est vraiment Édouard Philippe, qui sera l'invité d'Europe 1 tout à l'heure? Et quel est l'atout de la France dans la mondialisation? Oui, les trois fantastiques, c'est clairement la rencontre des grands esprits. Rencontre qui accouche généralement de grandes idées.
Si je souffle sur les nuages, si je fais... peut-être qu'ils partent.
Oui, généralement, mais pas toujours.
Bon réveil à tous, il est 6h41. Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'horreur en Nouvelle-Zélande, au moins deux mosquées ont été la cible d'attaques ultra-violentes à l'arme automatique. L'attentat est intervenu pendant la prière du vendredi. Quatre suspects ont été interpellés et des engins explosifs artisanaux ont été retrouvés et neutralisés. C'est la fin de la première phase du grand débat national. Invité exceptionnel d'Europe 1 à partir de 7h30, le Premier ministre Édouard Philippe, il répondra aux questions de toute la rédaction et des auditeurs jusqu'à 9h. Enfin du football, il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe. Arsenal a stoppé net hier les espoirs de Rennes pour une qualification en quart de finale de la Ligue Europa. Les Bretons ont été battus 3-0 en 8e de finale retour.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont réunis dans ce studio Lagardère. Plus les jours passent et plus je me dis Dieu qu'il est injuste ce titre des trois fantastiques. Car en réalité, au vu de ces interventions toujours pertinentes hors antenne, ils sont plutôt quatre. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique et Céline Dacosta pour la politique aussi. Ah. Comme on a encore pu le constater hier durant la coupure pub, alors qu'Axel parlait de Laurent Berger.
Mais il y a la baraka là, Laurent Berger, hein. Il a tué la CGT, il passe pour le sage qui avait dit à Macron, vous voyez, je vous l'avais dit.
En plus, il fabrique des lampes qui sentent bon.
Une petite pub discrète pour Lamberger. Bien vu Céline. Néanmoins, on va plutôt commencer par la politique, la vraie. Hein, avec vous, Mickaël Darmon, invité exceptionnel, je le disais, d'Europe 1 dans la matinale de Nikos Aliagas, le Premier ministre Édouard Philippe. L'occasion de se demander avec vous, Mickaël, qu'est-ce qui fait courir Édouard Philippe ces jours-ci?
Alors vous savez, il y a le grand débat et puis les grandes retrouvailles. Après un temps d'arrêt, Édouard Philippe a repris les déjeuners avec ses amis, les maires, des élus venus de toutes les régions de France. C'était mercredi, ils sont une quinzaine autour de la table, la plupart des anciens LR, pro-Macron et pro-Philippe. Cette assemblée, vous savez, c'est le socle discret de son petit club politique avec lequel le chef du gouvernement analyse et réfléchit en toute liberté. Alors après l'interruption due aux gilets jaunes, il a dressé donc le bilan de la période passée. Il ne regrette rien, ni les propos, ni les actions depuis le début de la crise, depuis novembre. Pourtant, il avait dû avaler des couleuvres avec l'annulation des taxes sur le diesel. Édouard Philippe est bien dans ses bottes. Il se verrait bien continuer donc à sa place 5 ans. Mais voilà, ce n'est pas lui qui décide. Hein. Après 2 ans à Matignon, il doit commencer encore ses journées en se pinçant, parce que si Alain Juppé avait été élu président de la République, il n'aurait certainement pas été Premier ministre.
Est-ce qu'il se prépare à changer à la veille du lancement de l'acte 2 du quinquennat?
Alors la crise, vous savez, des gilets jaunes met en lumière un fait pour Édouard Philippe. Il n'y a pas eu un graffiti sur les murs contre le chef du gouvernement depuis le début du soulèvement des gilets jaunes. C'est tout pour Macron. Et pourtant, c'est Philippe qui avait porté la mesure de la limitation de vitesse à 80 km/h, une des mèches du conflit. Il en tire un avantage, il cultive son style et sa différence, distance et humour british, on le verra certainement ce matin. Philippe l'a dit à ses amis maires, en 2022, Macron sera réélu par le flanc droit, car il ne croit pas ou en même temps. Mais peut-il devenir le leader naturel alors de ce pôle droit de la Macronie quand ses amis lui en parlent? Philippe garde son flegme, mais attention, souvent flegme varie, et bien faut le qui s'y fie.
Wow. Souvent flegme varie, Mickaël, vous m'épatez jour après jour. Axel de Tarlé, on parle économie avec vous à présent. Les Français ont un atout méconnu dans la mondialisation, le français.
Exactement, c'est ce que nous montrent les projections de l'OIF. L'OIF, c'est l'Organisation Internationale de la Francophonie. Aujourd'hui, il y a 300 millions de francophones dans le monde. Et bien dans 50 ans, il y en aura le double. Alors c'est une estimation. Pourquoi ? Ben, c'est notamment toute la portée démographique en Afrique. Et donc l'avantage du français, et c'est pourquoi The Economist recommande aux anglophones dans le monde d'apprendre le français comme deuxième langue. L'avantage du français, c'est qu'il est parlé partout dans le monde, sur quatre continents, ce qui en fait une véritable langue mondiale. Ben oui, si vous regardez le français parlé en Europe, dans beaucoup de pays, c'est la deuxième langue la plus enseignée en Europe devant l'allemand, hein, juste derrière l'anglais. Il est parlé évidemment en Afrique, une quinzaine de pays, en Amérique, Canada, les Antilles, Haïti, en Océanie, et même si on pousse le bouchon du chauvinisme un peu loin,
on peut même
dire qu'il est parlé en Asie, bah oui, au Vietnam, au Cambodge, on en trouve quelques vieux sages.
Au Vietnam, il y a quelques vieux sages qui parlent français, mais pas des masses.
Pas les jeunes, voilà, j'avais prévenu. En tous les cas, c'est la langue officielle dans 14 pays et co-officielle dans 17 pays, et donc je le disais, sur 4 continents, parce qu'alors on va me dire, mais l'espagnol c'est 2 continents. Alors on va me dire, mais le chinois c'est très grand. Oui, mais le chinois c'est une langue, c'est comme le japonais, ce sont des langues qui n'arrivent, ou comme l'hindou d'ailleurs, qui ne sont même pas parlées dans toute l'Inde, ce sont des langues qui n'arrivent pas à s'exporter parce que jugées trop compliquées à apprendre, ce qui fait que le français est la seule langue parlée.
Mais il paraît que c'est compliqué le français. C'est dur comme langue le français,
paraît-il. Oui, mais quand on est hispanophone, c'est pas si dur que ça.
C'est plus simple pour un espagnol.
Et quand on baigne dans un univers francophone comme tout de nombreux pays en Afrique, c'est pas si difficile que ça. C'est une langue en plus qui est parlée par les élites. Si vous regardez, les élites égyptiennes parlent français. Aujourd'hui, c'est 16% du PIB mondial. Bref, apprenez le français, ça a plus d'avenir.
Oh là là.
Que l'espagnol.
Ne m'engueulez pas, Axel.
Non, c'est ma petite vanne de fin. N'en déplaise à Nikos qui nous fait des leçons d'espagnol écoutées sans arrêt.
Me gusta tanto la cultura hispánica.
Eh ben voilà, mais il ferait mieux d'apprendre le français.
Non, il parle très bien, pardon. Oh la boulette, Axel, la carrière flinguée. Vous pouvez passer à la compta. Merci pour cette dernière chronique qui était fort intéressante. Et par contre, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
Dans mon escarcelle des programmes à voir ce week-end, 2 conseils. Le premier est un documentaire qui mêle culture, évasion et histoire. Arte diffuse samedi soir Orient Express, le voyage d'une légende à 20h55, 1h30 à bord de ce train extraordinaire inauguré en octobre 1883 et créé par un Belge, Georges Nagelmakers, fondateur de la compagnie internationale des wagons lits. Alors, à travers ce voyage, c'est aussi un voyage entre l'Occident et l'Orient. L'Orient Express est devenu un symbole de puissance, un lieu de bataille politique. C'est dans un des wagons que fut signé notamment l'armistice du 22 juin 1940, un train immortalisé par Agatha Christie, et qui attirait, écoutez bien, tous les people de l'époque, comme le raconte le journaliste et historien Jean Descartes.
Une clientèle va prendre l'habitude de voyager à bord pour donner ses rendez-vous, pour montrer sa puissance ou sa fortune. Il y a des gens, d'ailleurs, qui vont faire une partie du trajet, quelquefois, pour donner un déjeuner ou un dîner. La veuve de Richard Wagner avait commencé à réquisitionner une voiture en Allemagne pour faire donner des concerts sur un piano par un admirateur de feu, son mari Richard Wagner.
Alors, le récit est raconté par Charles Berling, extrêmement documenté, c'est enrichi par des images d'archives, ce programme est passionnant. C'est donc à voir sur Arte à 20h55. Et juste avant, à 20h30, je vous conseille également de découvrir le nouveau magazine de Laurent Delahousse sur France 2. Après le 20h, le journaliste propose donc 20h30 le samedi, un magazine divisé en 3 reportages autour d'un thème culturel, patrimonial ou autour d'un invité. C'est le cas ce samedi, c'est Claude Lelouch qui est l'invité. L'occasion de revenir sur sa carrière et notamment sur un court-métrage, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez le voir sur internet, ça s'appelle « C'était un rendez-vous ». Ça dure 10 minutes. En 1976, Lelouch traverse la capitale à bord de sa Mercedes sans s'arrêter. Voilà. Porte Dauphine, Montmartre, à plus de 150 km/h. Et bien justement, ça lui vaut une convocation chez le préfet.
En fait, j'ai été convoqué par le préfet de police de l'époque et qui m'a fait venir dans son bureau en me disant « Écoutez, vous avez mis au début de ce film que le film avait été fait sans aucun trucage ni aucune accélération. Oui. Donc les 18 feux rouges sont des vrais feux rouges. » Je dis « Oui. » Les stops aussi, oui. Alors il me dit « Écoutez, je vais vous retirer votre permis de conduire. » Alors je lui ai donné mon permis, et puis il l'a gardé 5 minutes. Il me dit « Je peux pas le garder plus de 5 minutes, sinon mes enfants vont plus me parler parce que c'est leur film préféré. »
Voilà, c'est un des témoignages que vous pourrez découvrir dans cette nouvelle partie magazine de Laurent Delahousse, et c'est à découvrir samedi sur France 2 à 20h30.
Merci beaucoup Eva Roque, merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart. Céline, une dernière analyse géopolitique.
Quelle idée ils ont eu quand même avec ce Brexit.
Merci.
C'est pas faux. 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais haut les cœurs, car il arrive. Il vient de garer sa Bentley au parking, il est la générosité incarnée. Dès qu'il peut faire un chèque pour aider, il répond présent, même en pleine interview sur les monuments en péril.
Église est en péril, il faut trouver 50 000 euros, j'ai regardé ce matin. Mon...
50 000, il vous faut.
Nico Sayaga, c'est arrivé, précédé du débrief de sa matinale d'hier.
Bienvenue à tous, il est 6h52. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Oh, ça sent bon le week-end pour l'équipe de Debout les copains, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos, comment allez-vous ce matin ?
Le cœur est chaud et la lumière est là.
Oui, ben on va dire que ça va, quoi. Cela dit, si par la lumière vous faisiez référence à Céline Dacosta, je dis attention, n'allons pas trop vite en besogne, car quoique vive intellectuellement, au bout de 4 heures d'antenne, les connexions neuronales de Céline accusent parfois un peu le coup, comme hier quand, je ne sais pas, qui avait perdu son portable.
Qu'est-ce que tu cherches ? Ton téléphone ? Ah bon ? Appelle-toi.
Tu as perdu ton téléphone ? Ben appelle-toi. Bon sens, lusitanien, quand tu nous tiens. De votre côté, Nikos, très belle prestation hier, un quasi sans faute qui vous a permis de vous révéler un peu plus et notamment d'exalter ces valeurs viriles qui vous tiennent à cœur. Vous, l'enfant de Sparte, élevé à la dure. C'était au détour de l'interview d'un responsable du service universel qui tentait de vous pipoter en vous expliquant que ça allait être génial. Vous, en bon fils de Sparte, vous n'aviez qu'une question en tête. Est-ce qu'il va y avoir de la castagne ? Est-ce qu'il va y avoir des guns ?
Bonjour monsieur, ce service national, ce sera plutôt ambiance service militaire ou ambiance colo ?
Le meilleur des deux. On va garder le meilleur de la colo avec la qualité de l'encadrement, avec aussi l'ambition éducative. Et puis on va garder le meilleur du service militaire qu'on a connu, c'est-à-dire...
On apprend à manier les armes aussi alors ?
Ah non, on n'apprend pas à manier les armes. Pas du tout.
Ah bah non Nikos, tout au plus les jeunes pourront confectionner des petites catapultes avec des branches de marronnier. Encore une belle génération de mauviettes. Enfin, alors qu'on croyait le dérapage de la semaine oublié, le dérapage dit du zizi de Zizou, voilà que le malheureux lapsus a connu, grâce au facétieux Laurent Cabrol, une deuxième vie, peut-être encore plus intense que la première.
Mais Zizi est un prénom respectable, Zizi Jean-Mer. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour mes amis.
Bah oui, vous connaissez un autre Zizi à part Zizi Jean-Mer ?
Bah non, j'en connais un, c'est le mien, mais c'est tout.
C'est ce qu'on appelle en humour l'effet domino, petit lapsus, grande conséquence. Mais n'ayez crainte Nikos, en matière de lapsus malheureux, votre invité exceptionnel ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe, en connaît un rayon. On se souvient de la fois où il avait voulu parler des vocations des joueurs de rugby français.
Parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter de grands joueurs. Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter. Voilà,
c'est mieux comme ça. Donc, un partout la balle au centre. Bonne matinale, Nikos.
Même le Premier ministre, vous ne lâchez vraiment rien.
Ça, c'est vrai.
Rien. Honte à vous, Mathieu Noël, Eva Rock. Merci, les amis. Passez un excellent week-end parce que demain, on ne sera pas à l'antenne. On se retrouve lundi.
Bonne journée à vous.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.